Elle se ferme sur « La querelle des anciens et des modernes » qui annonce le siècle des Lumières. Le respect des règles d'écriture durant cette période, en art, chaque genre a ses règles. En théâtre, on note les plus grandes productions avec Jean Racine, Pierre Corneille et Molière. Il repose sur un certain nombre d'impératifs. La règle des trois unités, la bienséance et la vraisemblance, le sens de la mesure. Les anciens du théâtre antique sont pris comme modèles. Sophocle, Aristophane, Euripide, imitation des anciens. La règle des trois unités, l'unité de temps. Une limitation de la durée de la fiction. C'est une conséquence directe de la concentration. S'il y a peu d'événements, il y a peu de temps occupé par ces événements. Le spectateur vit un temps obligé. Donc, par souci de vraisemblance, la durée de l'action ne doit pas dépasser 24 heures, un jour. L'unité de lieu, une seule scène, un seul lieu fictif. Au nom de la vraisemblance, le théâtre classique choisit la coïncidence entre le lieu de l'action et la scène. Pour le spectateur, le lieu est bien réel, inscrit dans un décor, sous ses yeux. Une seule scène, un seul décor, un seul lieu. Tel est l'impératif qui s'affirme peu à peu. L'unité d'action, une exigence de concentration. L'action d'une pièce de théâtre doit être concentrée. Au moment où elle est représentée, elle a obligatoirement une dimension limitée. La pièce doit être unifiée autour d'un sujet principal. Dans son art poétique, Nicolas Boileau résume cette règle en ces termes « En un jour, en un lieu, un seul fait accompli ». À ces exigences s'ajoute souvent l'unité de ton. Les dramaturges refusent aussi le mélange des genres. Dans la tragédie, l'action mêle intrigue sentimentale et intrigue politique. Et le dénouement est tragique. La comédie représente des gens de moyenne ou de petite condition et se termine par un dénouement heureux. Un idéal humain, l'honnête homme. Chaque société se donne comme idéal un certain type humain. Au XVIIe siècle, c'est l'honnête homme, l'homme cultivé avec une intelligence ouverte, sans être pédant, distingué, galant, courtois, élégant, au courant de toutes les convenances mondaines. L'honnête homme est aussi un homme ouvert, curieux d'esprit, savant parfois mais sans faire étalage de ses connaissances et au milieu où il se trouve. L'art de plaire, c'est à ce talent que l'on juge l'homme du monde. Plaire impose que l'on sache être profond tout en divertissant. La Fontaine, par exemple, instruit ses lecteurs, mais sa morale passe par l'agrément de la fable. On voit ici que les qualités humaines et la morale rejoignent les ambitions artistiques et les formes mêmes de l'art. C'est que le classicisme forme un tout. Ceci explique que le mot de « classique » est un emploi et une signification très large. En effet, bien que le classicisme soit le reflet d'un état politique et social très précis, il dépasse ses limites historiques et renvoie à une valeur beaucoup plus générale. Dès le XVIIe siècle, on désigne par « classique », ce qui constituait par ses qualités une référence à suivre. Et classique, ce qui est digne d'être enseigné dans les classes, ce qui mérite d'être pris pour modèle. Aujourd'hui, le mot appliqué à toutes sortes de domaines sert à qualifier un idéal d'ordre, de rigueur, de clarté et de sobriété, et des œuvres capables de suivre aux variations des modes. Ainsi, le classicisme était mu par le souci d'améliorer la société en critiquant les défauts provoqués par la nature humaine. Il s'attaque aux mœurs jugées mauvaises et exalte une conduite incarnée par l'honnête l'homme, confère les comédies de Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Les caractères de la Bruyère, les fables de Jean de La Fontaine, les maximes de la Rochefoucauld, la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. L'honnête homme condamne les excès et prône le bon sens qui s'efforce d'être clair et agréable. C'est le siècle des Lumières, le 18e siècle, le rationalisme philosophique ou philosophie des Lumières. Au pluriel, Lumière signifie intelligence, savoir, capacité intellectuelle. Les Lumières désignent un mouvement intellectuel européen. C'est aussi le 18e, en tant que période de l'histoire de la culture européenne, marquée par le rationalisme philosophique et l'exaltation des sciences. Ainsi, esprit critique, expérience et raison deviennent les maîtres mots. préparé par Montesquieu, L'Esprit des rois, Voltaire, Dictionnaire philosophique, Diderot et Jean, critiques pour condamner les abus politiques, la monarchie absolue, les injustices sociales et religieuses, tiers-état dans la misère, le fanatisme et l'intolérance, le despotisme. Ils cherchent la vérité derrière les ténèbres des préjugés, à l'aide de la raison. Il faut être utile à la collectivité en organisant une nouvelle vision de l'univers. Le centre de cette pensée n'est plus la religion, mais l'homme considéré comme un être libre et raisonnant. Cet élan se manifeste par le militantisme des écrivains par le biais de la littérature. La diffusion de cette littérature de propagande s'attaque aux dogmes et ébranle en même temps le système religieux. On s'attaque à l'ordre social et à la hiérarchie religieuse. C'est ainsi qu'une littérature qui diffuse des idées nouvelles et prépare la révolution de 1789. Elle a confiance en la raison et au progrès et recherche le bonheur sur Terre. La grande œuvre des Lumières est l'Encyclopédie, 1751-1772. Des penseurs ou philosophes, parce que intervenant dans des domaines variés, se groupent pour publier une œuvre monumentale. Cet ouvrage nouveau contribue à la Révolution française de 1789. Le 14 juillet 1789, un peuple affamé, spolié, se dresse contre toutes les injustices et prend la Bastille, symbole de la dictature et du despotisme. 2. Le preromantisme. Vers la fin du XVIIIe siècle, une sensibilité se développe. Elle va à l'encontre des disciplines de l'époque. Diderot et Rousseau accordent une place importante au sentiment. Le sentiment apparaît comme un instinct plus vrai et plus sûr que la raison. Le cœur l'emporte sur la raison. Et il sera au cœur des œuvres de ses écrivains à travers les hymnes à la nature. L'inquiétude, le sentiment d'être victime de la fatalité et l'impuissance à l'égard des passions sont les thèmes que l'on retrouve dans presque tous les romans de l'abbé Prévost. L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Leur sensibilité conduit la plupart des écrivains à exprimer leur moi, leur mélancolie, leur nostalgie. Diderot réhabilite les passions. Il souligne dans un article « À mesure que l'esprit acquiert plus de lumière, le cœur acquiert plus de sensibilité ». On retrouve chez Rousseau et ses contemporains le goût de la confession, la fuite au sein de la nature protectrice, les tourments de l'absence, l'inquiétude face à la fuite du temps, le désir d'éterniser l'amour par le souvenir. Ainsi, ces écrivains annoncent le romantisme. Dès le 19e siècle, le 19e siècle est traversé par plusieurs courants littéraires, le romantisme, le réalisme et le symbolisme. Le naturalisme prolongera le réalisme et l'école parnassienne marquera une rupture dans la conception de l'art avant le symbolisme. Plusieurs conceptions de l'art se développeront, mais chacun correspond à une vision du monde et de l'homme. Mais en fait, ils s'entremêlent de l'un à l'autre à des échanges féconds. 1. Le romantisme, mai 1820-1843. Généralement, on fixe son avènement avec la publication de Les Méditations poétiques de Lamartine en 1820. Il est difficile de définir le romantisme dans sa diversité. Préférant l'imagination et la sensibilité à la raison classique, il se manifeste d'abord par un magnifique épanouissement du lyrisme personnel. Il consiste à l'éveil de la sensibilité personnelle, l'exaltation du moi et la communion avec la nature. La primauté de l'émotion sur l'intellectualité est la première caractéristique. Au plan littéraire, il regroupe Victor Hugo et ses contemporains autour de Sénacle. Ils préconisent entre autres objectifs de « libérer l'art », c'est-à-dire abandonner les règles classiques, réagir contre le principe d'imitation, pas de sujet tabou. Adopter l'individualisme dans l'art, droit pour l'écrivain de prendre ses propres sentiments. Bouleverser les formes fixes. Ainsi, le romantisme est une réaction contre les excès rationalisme classique. Il cherche à réhabiliter le rêve d'autant plus que la réalité sociale est marquée par la misère. Les écrivains romantiques souffraient du vague de l'âme. Ils étaient mélancoliques et avaient l'air malades, pâles, maigres. En poésie, Hugo, Alfred de Musset et Alphonse de Lamartine donnent libre cours au lyrisme qu'accompagne une libération de l'art en réaction contre la rigidité classique. Ils prennent le contre-pied de l'esprit des Lumières. Musset s'écrit « Il faut déraisonner ». Hugo propose de briser l'alexandrin. Le poète romantique se réfugie dans la nature qui lui apparaît comme une confidente.